On ne peut pas dire au passé ce qu'il doit faire. C'est une des devises du dernier spectacle de Romeo Castellucci qui est ce soir notre invité. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et au risque de surprendre Romeo, nous allons commencer par Michael Jackson. Ça vous plaît, Michael Jackson, j'en étais sûr. C'est tout à fait votre genre, Roméo.
Oui, moi je suis très pop.
Mais depuis longtemps d'ailleurs. Si vous n'utilisez pas la musique pop dans vos spectacles.
Ça c'est vrai. Je suis pop dans l'âme. J'aime beaucoup.
Ça veut dire quoi, pop, dans l'âme?
Être n'importe quoi. Être un visage dans la foule. Être comme tout le monde. Donc Michael Jackson... Évidemment, oui.
Être n'importe quoi ou être n'importe qui?
N'importe quoi. Je n'ai pas, disons, la soi-dite conscience d'artiste. Je ne me considérais pas comme quelqu'un de spécial. Et ça, je trouve que c'est une énorme force, parce qu'il s'agit d'être percé par tous les phénomènes autour de nous. Et je suis frappé comme tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de lire ou de décoder les réalités. Je suis, comment dire, victime, d'une certaine façon, de tout ce qui se passe autour de moi, au dehors de ma peau, c'est-à-dire le monde. Donc, évidemment, l'artiste, ce n'est pas un prêtre ou un prophète ou quelqu'un qui est capable de voir le futur, par exemple, non?
Vous êtes comme un buvard.
Oui, nécessairement. Je pense que l'attitude la plus importante pour ce métier, c'est l'attention, être attentif tout le temps, être en écoute. Et ça, c'est le premier geste artistique, je crois. Ce n'est pas de créer quelque chose, mais c'est plutôt d'écouter quelque chose et de se faire percer honnêtement. Et donc, il s'agit d'une balance entre une certaine passivité, comme un objet. Donc, je suis n'importe quoi. Mais, par contre, il faut faire passer quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de créer, mais de faire passer quelque chose. Je crois que le théâtre, je l'ai déjà dit, je crois que le théâtre, c'est plutôt un symptôme. Donc, c'est un reflet de ce qui se passe. Un reflet, évidemment, anamorphique, comme on dit, transformé, transfiguré, mais c'est un reflet. Et la transformation, c'est essentiel, évidemment. C'est pas un miroir, qui peut reproduire telle que telle la réalité, non? C'est un miroir obscur qui change la perception de la réalité. Peut-être qu'il y a une suspension de la réalité, même ça.
Mais le théâtre que vous faites depuis des décennies, Romeo Castellucci, s'alimente beaucoup à des images religieuses, à des conceptions symboliques du monde, à des transformations de notre psyché. Et finalement, est-ce qu'il est là plus pour nous faire comprendre ce qui nous arrive, que pour nous révolter contre ce qui nous arrive et dont nous ne prenons pas forcément conscience?
Oui, peut-être. La structure religieuse est partout, même dans cette pièce.
Alors cette pièce, c'est une pièce de répétition du théâtre de la MC 93 de Bobigny. Il n'y a pas de croix apparente. Il n'y a que des panneaux en faux bois. Vous voyez quand même une atmosphère religieuse dans cette pièce.
Il y a un micro.
Oui.
Donc il y a la voix.
Ah.
Il y a le temps dédié, un cadre humain. Moi, je suis, comment dire, interviewé par vous. Il y a l'autorité. Il y a toute une structure.
C'est vous l'autorité?
Non, c'est vous.
Qu'est-ce qui est religieux là-dedans? Non, moi, non, je suis là pour recueillir votre parole.
Oui. Non, je veux dire, la structure religieuse...
Comme une bonne ouaille dans une église.
Oui.
De la culture.
Oui, voilà. Non, je veux dire, il n'y a rien à voir avec la foi. Hein. Je parle, ce n'est pas la religion entendue comme le catholicisme, l'islamisme et tout ça. La structure de la pensée est religieuse. Même le théâtre, donc l'origine étymologique de la parole... Le mot religion, c'est religio.
C'est relié.
Relié. Donc, le théâtre est immédiatement et énormément religieux. Donc, il faut assumer ça. Pas dans une façon mystique. Moi, je ne suis pas du tout un mystique.
Vous êtes quoi? Un laïc, invétéré?
Je ne sais pas. Peut-être que la question est intéressante, mais pas la réponse. Ce n'est pas intéressant de dire « moi, je suis croyante, je suis athée ». Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la structure dans laquelle nous tous, on est tenus. Entrer dans un supermarché, c'est énormément un espace religieux. En pharmacie. En pharmacie, c'est de l'esprit. C'est de l'esprit, le Saint-Esprit. Donc la religion, la publicité... Avoir un match de football, ça c'est la structure de la religion est partout. Donc les codes, les cultes chrétiens a été sostitué, comme dit, Mais la structure, ça reste.
Vous voulez dire que notre forme d'appartenance au monde, Romeo Castellucci, est forcément d'ordre religieux. On veut croire, on doit croire.
Oui, absolument.
Pour respirer.
Pour exister, mais ça, c'est un problème, à mon avis. Ça, c'est une forme d'esclavage. Par exemple, aujourd'hui, je crois que les langages, la manière de maîtriser les langages comme un pouvoir, ça, c'est un danger. C'est vraiment une structure religieuse, non? Donc, il y a quelqu'un qui a compris ça. La façon de parler, de s'exprimer, d'écrire, évidemment, a été, comment dire, canalisée dans des formes. Donc, la façon de parler est déjà une forme de... Je ne sais pas comment dire en français, en italien, c'est une coazione. Donc, on est obligé à un certain comportement dans le langage parce que la structure qui est là a conçu la phrase, comment dire, non?
Vous voulez dire qu'à l'intérieur de nous, Romeo Castellucci, nous sommes conditionnés par une langue qui vient de la religion et qui nous demande une forme d'obéissance, en quelque sorte.
Oui. D'une certaine façon, il y a rien à voir avec, malheureusement, je veux dire aussi, avec l'ancienne religion. Là, on avait des outils pour, par exemple, on pouvait choisir de ne pas entrer dans une église. Maintenant, l'église est partout, dans la façon, on est dans notre poche, un device qui fait partie de cette église.
Alors, cette église, elle est au sens... Pas forcément religieux du terme, tel que vous l'entendez, ce terme d'église.
Oui, non, c'est...
C'est une forme de soumission au monde.
Oui, mais il y a un culte. C'est un culte, c'est ça. Donc, on se met à genoux. Et ça, c'est le culte. On est minoritaire face à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, non? On est à genoux. On a voulu, peut-être ce n'est pas un choix, à vrai dire, de communiquer dans cette manière. Je crois que la communication, l'information, c'est le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, parce que son opération est dans la sphère intime. Donc l'intimité a été envahie.
Vous voulez dire que notre civilisation s'achemine de plus en plus vers une sorte de dépossession de notre propre langue, d'impossibilité de pouvoir déployer notre propre liberté, tellement nous sommes asservis à des codes qui nous régissent plus ou moins consciemment.
Oui, je crois qu'il s'agit de ça. Par contre, il y a la possibilité de suspendre cette réalité, évidemment. Donc, l'expérience de l'art, ça peut être une forme de combat. Ou de révolte, destitution du pouvoir. Je crois que l'art, c'est un moyen qui peut être encore efficace. Mais donc, il faut changer le jeu. Il ne s'agit pas d'être antagoniste. Être antagoniste aujourd'hui, ça veut dire déjà faire partie. C'est comme une foi à inverser. Donc, on a besoin de... Donc, il faut changer.
De s'échapper.
Voilà, c'est ça. Il faut
changer. Mais comment s'échapper ?
Ah, il faut inventer un autre temps, un autre espace, des autres lois physiques. Et c'est un plateau, on a véritablement un autre temps, un autre espace, une autre façon de rester, d'être ensemble.
Donc, le théâtre devient un art de la résistance au XXIe siècle pour
toujours,
vous ?
Toujours, pas XXIe, toujours.
Il a toujours été.
Toujours a été comme ça.
Eh bien justement, je vous propose d'écouter la voix d'un grand historien de l'histoire antique. Il s'appelait Jean-Pierre Vernant, vous le connaissez. Il va parler des enjeux de la naissance de la tragédie. Oui. C'est une archive qui date du 23 novembre 1998.
La nouveauté, elle consiste en ceci. Lorsque les poètes, les aèdes, chantent le passé légendaire, ils le chantent, si je peux dire... Comme on rapporte des événements auxquels on a assisté. Alors Achille dit ceci. Alors Ulysse eut l'idée, etc., etc. Donc c'est impersonnel. Tandis qu'au contraire, ce que vous allez avoir avec la tragédie, c'est quelque chose d'absolument nouveau. C'est que tous les personnages sont présents. On ne rapporte pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas le style indirect, c'est le style direct. Ils parlent directement. Autrement dit, le fictif... plutôt ce qui ne peut plus exister, ces héros morts, on les a devant les yeux, sous le nez. Ils parlent comme s'ils étaient vivants. Et alors, à ce moment-là, le spectateur, j'ai raconté ça 36 fois au début du cinéma, quand les spectateurs, quand j'étais jeune gosse et que j'allais au cinéma à Provins, les spectateurs poussaient des hurlements devant l'écran et prévenaient la malheureuse vierge menacée par un traître, « Méfie-toi, elle est dans le placard, etc. etc. » Bon, ils n'avaient pas la conscience du fictif. La conscience du fictif, ça se construit. Nos petits-enfants qui sont tout le temps devant la télévision, ils ont une conscience du fictif ultra développée, c'est-à-dire que maintenant, hélas, ils ont l'idée que le réel, c'est comme du fictif. Et quand ils jettent des pierres sur les tramways, ils n'ont pas l'impression qu'ils font quelque chose d'épouvantable, ils ont l'impression qu'ils font comme ils ont toujours vu faire sur la télévision. Or, c'est avec la tragédie que le fictif prend sa signification de quoi ? D'imitation, d'arriver à faire croire habilement par une technique que ce qui ne peut pas être est là devant vous.
On vient d'entendre Jean-Pierre Vernant, Roméo Castellucci, et c'est vrai que le théâtre a été à l'origine de l'humanité, destiné en tout cas comme un lieu qui permettait d'être ensemble pour peut-être apaiser les tensions des personnes entre elles. Est-ce que vous pensez que vous inscrivez dans votre art de faire du théâtre, dans cette définition de la tragédie? Au fond, vous faites peut-être des tragédies postmodernes.
La référence à la tragédie, évidemment, est inévitable. C'est comme l'étoile polaire. C'est toujours là. C'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est le point de référence. C'est la condition humaine. Donc, ce n'est pas un style ou quelque chose qui appartient à l'archéologie. Ça reste. On est frappé par le fait d'être né. Ça, c'est l'échec de la conception tragique de la vie. Donc, on découvre d'être né dans un corps, dans un pot, dans un temps, dans un lieu qu'on n'a jamais choisi. Il y a aussi, évidemment, à cause de ça, un manque de sens. Et c'est ça la structure de la tragédie. Donc, la tragédie est toujours là. Par contre, les références au théâtre iconographique ne sont pas seulement liées à la tragédie, mais aussi à la conception qui est pré-tragique. Donc avant l'écriture, il y avait les corps. On peut aller en arrière, on peut passer évidemment par les mystères de l'Eleusis, mais aussi en arrière, jusqu'à la caverne, là où, véritablement, on a inventé le jeu et la fiction. C'est-à-dire la fantaisie, c'est-à-dire l'autre monde, c'est-à-dire la façon d'échapper de ce monde. L'invention de la fantaisie, c'est le théâtre. Et apparemment, selon les paléanthropologues, les femmes ont inventé, se sont réveillées dans un autre monde, le monde de la fantaisie. Ils ont inventé l'imagination. Apparemment, il y avait dans les cavernes, quand les clans des chasseurs étaient pendant des mois en dehors, les femmes ont récupéré un pouvoir spirituel, disons, à travers l'imagination, la fantaisie, les dessins sur les murs et des gestes. Donc c'est un fait qui est très lié au corps. Et je crois que la racine la plus profonde du théâtre, c'est ça, c'est féminin. Parce que c'est l'art de la chair, l'art carnale, le théâtre. C'est l'unique langage, l'unique expression artistique qui est faite à travers la chair. Et le fait d'être, enraciné dans un corps, ça, c'est un fait féminin. Et je crois qu'il faut chaque fois récupérer cette nécessité, le corps. Donc ça résiste, on ne peut pas dépasser le corps, ça reste, est nécessaire. Et cette nécessité, c'est aussi peut-être aussi un souvenir. Chaque fois qu'on ouvre le rideau, il y a un souvenir de ce corps. Et donc l'histoire de la tragédie, c'est bien plus ancien que la tragédie attique d'Athènes.
On peut dire aussi, Roméo Castellucci, que vous faites un théâtre des origines, c'est-à-dire que vous pratiquez le théâtre comme un art de l'obscurité et de la lumière, du surgissement, de l'apothéose, de l'advenu au monde, de l'épiphanie. Et moi, j'aimerais bien savoir, en faisant un petit détail, un petit parcours autobiographique, qu'est-ce qui s'est passé en vous, Romeo Castellucci, dans l'adolescence, quand vous étiez, si j'ai bien compris, un jeune homme quand même très indiscipliné. Qu'est-ce qui vous a fait passer tout d'un coup à cette vision prophétique du monde et à être cet artiste reconnu internationalement?
Alors,
vous étiez un mauvais garçon.
Oui, j'étais vraiment... je n'avais aucun intérêt. La culture, les livres, la littérature, c'était vraiment des choses très ennuyantes. Il n'y avait aucun sens d'érotisme, voilà. Il n'y avait aucune violence. Parce qu'à cette époque, je pense qu'on est violent. Non? On a besoin, il y a une violence qui c'est, comment dire, être mise au monde. Ça, c'est la deuxième fois, mais cette fois comme un choix. Faux de la violence, bien évidemment, maîtrisée, pas contre les autres. En tout cas, c'est toujours une violence, comment dire, mentale. On a besoin d'une preuve à cet âge. Et moi, j'étais complètement un idiot. Peut-être que ça reste cette forme d'idiotie, mais en tout cas, je n'avais rien à faire tous les jours. J'avais commencé à voler des choses. Un jour, j'ai découvert des livres de ma sœur sur une table. Il y avait un livre d'histoire de l'art et j'ai commencé à voir, à regarder un peu les images et c'était un choc. Et alors, j'ai commencé un peu à regarder, à entrer un peu dans... Et j'ai trouvé la violence dans l'art. J'ai eu aussi une rencontre, plutôt une épiphanie, oui. C'était un concert en plein air. C'était le Sacre du Printemps, donné dans une place à Bologne. C'était un choc. Ça, c'était vraiment la violence disciplinée. Et donc, j'avais compris que la forme, ça peut être une rébellion contre le monde, contre l'absolutisme de la réalité. C'était une façon de se libérer. Donc, c'était beaucoup plus fort comme expérience que le punk, par exemple. C'était parce que j'avais compris la discipline dans la violence et aussi la nécessité de la violence. Après, ça a été une chute. Je n'ai jamais vraiment choisi les choses.
Elles se sont imposées à vous.
Oui. Moi, je ne crois pas vraiment à la choix. Hein. Il faut être vraiment disponible, et recevoir ce qui se passe. Mais je n'ai jamais choisi le théâtre, à vrai dire. J'ai fait des études d'histoire de l'art, à la base. Et après, je me suis trouvé avec de l'argent dans les poches. Mais c'était à cause du théâtre. Donc, parce qu'on avait commencé avec mes amis à faire des performances dans l'Académie des Belles Arts, dans des galeries. Après, la performance a changé un peu, est devenue plus théâtrale. Et après, voilà, tout a été, comment dire, un jeu de... C'était un shoot, voilà. Je suis tombé dans ce métier, dans cette façon.
Mais vous continuez d'ailleurs à naviguer encore aujourd'hui, Romeo Castellucci, entre la performance et le théâtre et la mise en scène d'opéra, qui devient très importante depuis une quinzaine d'années. Vous signez des mises en scène absolument remarquables, comme très récemment le Don Giovanni à Vienne. Oui, je sais, il s'est fait beaucoup critiquer, mais...
mais les critiques, ça va toujours. Non, c'est mon jugement qui est plutôt sévère. Mais voilà.
Pourquoi?
Parce que j'ai raté, je pense, le premier acte. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas le contexte juste pour parler de ça. Mais voilà, pour des raisons techniques.
Alors, on ne va pas parler de technique, parce que je vous ai déjà vu plusieurs fois... Après certains spectacles, et ça depuis longtemps, vous n'êtes jamais content de ce qui s'est passé sur le plateau du théâtre, tellement vous êtes obsessionnel à la demi-seconde près. Mais je voudrais quand même revenir sur votre interprétation et votre compréhension de Don Giovanni, et notamment à partir de cette phrase bien connue de tout le monde, de Don Giovanni qui a mille traits. Alors, à partir de ce mille traits, vous déployez une compréhension tout à fait neuve de Don Giovanni. Milletré, c'est pas la conquête, justement, de 1003 femmes.
Oui,
c'est
oui,
pas
oui,
l'accumulation
oui,
des
oui,
femmes.
Oui, 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 oui.
C'est la recherche d'une seule.
Oui, 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 oui. Oui.
Voilà.
Absolument. Alors, 1003, évidemment, chaque femme n'est pas suffisante parce qu'elle est en train de chercher sa mère. La structure de Don Giovanni est absolument une structure psychoanalytique. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas un tombeur de femmes. Pas du tout. Pas du tout. C'est un désespéré. C'est vraiment un personnage très mélancolique, et totalement seul. Il y a une solitude qui brûle. Donc, ce n'est pas un personnage méchant, ce n'est pas un Latin lover, absolument pas. C'est un homme dans une solitude incroyable, très, très mélancolique, je veux dire. Et donc, même, on le voit dans l'opéra de Mozart, il cherche de conquérir des femmes, il n'arrive jamais. Donc, c'est toujours. Donc c'est déjà un élément à considérer. Donc il n'arrive jamais dans son but, non? Parce que les femmes sont... Il y a la fameuse liste, non, de Leporello. Ils ne sont même pas des noms, ils sont des nombres. Et ça, c'est une image, comment dire, c'est une chose... Il n'y a même pas une relation humaine. Il a peur de la relation humaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom, mais il y a des nombres. Une fois qu'il y a le personnage qui est la terreur pour lui, c'est Don Elvira. Parce qu'il a rencontré déjà Don Elvira. Donc, rencontrer deux fois une personne, ça veut dire avoir une relation avec une personne. Et ça, ce n'est pas possible pour lui.
Et est-ce que ce compagnonnage de Mozart, qui dure depuis pas mal de temps, puisque vous aviez donné à Aix-en-Provence, je crois, il y a 2 ou 3 ans, ce requiem absolument magnifique, où vous aviez réussi à faire rentrer sur le plateau de l'opéra votre propre univers scénographique, mental et psychique, est-ce que ce compagnonnage avec Mozart vous a influencé artistiquement ?
Oui, je crois que Mozart, c'est un découvert, hein. C'est une montagne. C'est une montagne qu'on n'arriverait jamais à monter au sommet. Si on passe du temps en étudiant, en écoutant la musique, la structure de la musique de Mozart, c'est un objet infini, c'est un océan, c'est un mystère. Et donc, la façon de la joie, la légèreté qui est magnifique, extraordinaire, ça cache justement une caverne. Il y a un danger.
Et vous, vous recherchez le danger ?
Toujours.
Vous avez commencé avec Shakespeare, en tout cas c'est comme ça qu'on vous a découvert en France au Festival d'Avignon il y a pas mal de temps. Vous avez continué avec des compagnons aussi prestigieux que Dante, où vous aviez été une année l'artiste associé du Festival d'Avignon, et Dante s'était déployé dans toutes ses acceptions et dans toutes ses formes. Vous les choisissez bien, vos compagnons, quand même.
Non, c'est eux qui choisissent moi. Moi, il s'agit pas de... Ce sont des objets qui sont impossibles, donc qui sont parfaits. Il faut se mettre dans une condition d'impossibilité. Donc, ça, c'est la meilleure condition. Donc,
d'impossibilité.
D'impossibilité. Ce sont des objets totalement impossibles. Donc, on est déjà dans un état d'échec. Donc, tout va bien.
C'est ça qui vous intéresse.
Oui, oui.
Le
oui.
point c'est de départ, c'est ça.
Oui, oui. Le point de départ, c'est, comme on dit, il fallimento. Donc, on ne peut pas, absolument pas arriver à combler une telle chose, non? Et ça donne un espace de manœuvre plus grand. Par paradoxe.
Oui, alors donc, j'admire tellement, c'est irreprésentable, alors comment
voilà.
je fais ?
Non, l'irreprésentable, c'est évidemment la chose la plus intéressante. L'irreprésentable.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Romeo Castellucci. Andreas Scholl va chanter un extrait du Stabat Mater de Rossano.
Quod redis te seret afflicta,
cette musique, nous venons de l'entendre, puisque je sors de la représentation de ce spectacle qui vient de commencer au théâtre MC 93 de Bobigny, Roméo Castellucci. Et c'est un des rares moments où, effectivement, nous, spectatrices et spectateurs, on a l'impression qu'on peut un tout petit peu respirer parce qu'on entend cette musique et que tout d'un coup, il y a de l'oxygène qui arrive à nos poumons. Et cette musique, interprétée par Andrea Scholl, est comme une espèce de bassin, de ressourcement par rapport à... Je ne sais pas si Brosse s'inscrit dans une performance ou si elle s'inscrit dans une continuité théâtrale de votre œuvre, Roméo Castellucci. On peut dire que c'est une œuvre plutôt... tellement révoltante, enfin, je veux dire, qui appelle tellement à la révolte,
absolument,
que elle pourrait se jouer sur n'importe quelle place publique, pas forcément dans un théâtre fermé.
Oui,
on serait peut-être
vrai.
Pas obligé de prendre sa place.
C'est vrai.
Et elle jouerait comme un signal démocratique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, non?
Oui, chacun, chaque spectateur peut vivre et lire un spectacle comme. Il veut, il peut. Ça, pour moi, c'est très important. Très important de donner au spectateur, comme on dit, de jeter dans son bras un problème qui nous appartient, qui, c'est une image, l'image de la police, évidemment, c'est une image qui appartient à notre contemporanéité. Donc, c'est une image brûlante, d'une certaine façon, parce qu'elle échappe à chaque... Il n'y a pas un jugement, ce n'est pas une critique stéréotypée à la police, oui, évidemment, mais ce n'est pas la chose.
Ce n'est pas tellement, en tout cas, j'ai peut-être mal compris, mais ce n'est pas tellement qu'ils soient des policiers, c'est qu'ils portent un uniforme.
Voilà, c'est ça.
Ils sont tous
ça.
Semblables.
Oui, 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 voilà, c'est ça. D'abord, il y a, comment dire, il y a une structure ancienne, anthropologique, je dirais, il y a, comment dire, la confrérie, le totem. L'idole et le pouvoir inouï de l'uniforme. L'uniforme, c'est, sur le plan anthropologique, je veux dire, c'est une force. Quand on est devant un groupe de policiers à cause de l'uniforme, moi, personnellement, moi, je me sens coupable de quelque
nous
chose.
Nous tous, moi aussi.
Oui,
hein,
oui voilà.
Je pense
voilà.
Nous tous.
Évidemment, parce que c'est la fonction de l'uniforme.
C'est d'ailleurs un des ressorts les plus intimes de cette nouvelle pièce,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Vous agissez sur cette culpabilité en nous, puisque je crois qu'on ne va pas ôter la surprise et l'émotion des spectateurs en disant qu'à un moment, nous, spectateurs, nous allons aussi être menacés. On ne va pas dire comment ni pourquoi.
Oui, 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 oui. C'est un sentiment, le fait d'être... immédiatement, comment dire, coupable. Non, et ça, c'est un fait qui... Ça, c'est une autre structure religieuse, par exemple.
Vous voulez dire la dévotion à l'autorité avec un
grand A ? C'est pas la dévotion. C'est la soumission à l'autorité. Mais c'est d'ailleurs aussi chez Kafka, il y a la même condition humaine, hein, le rapport à l'autorité.
Mais on peut penser à Kafka en voyant Brosse.
Oui, 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 beaucoup.
Et notamment
beaucoup,
la colonie beaucoup. Pénitentiaire.
Oui, 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 absolument, oui.
Qu'est-ce qui a alimenté votre imaginaire pour la construction à la fois symbolique et en même temps pour la construction du plateau de Brosse, Roméo Castellucci?
Il y avait d'abord l'image de la police, qui c'est un thème extraordinaire. Qui bizarrement a été jamais traité au théâtre. Ça, c'est plutôt surprenant. Par contre, dans le cinéma, il n'y a que la police, non? Il y a l'histoire du cinéma est faite avec la police. On peut penser à Buster Keaton, où là, la police était la garantie pour le chaos, donc était au service du chaos. Donc il y avait déjà. Dans les premières années de la naissance du cinéma, la présence nécessaire de la police pour garantir le chaos et le comique. Après, j'ai pensé d'engager des gens totalement à l'obscur, ce ne sont pas des acteurs. Non, la majorité, non, tous les policiers sauf deux qui font partie de la compagnie, sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées, qui sont venues à un dernier moment. Ils ont reçu des oreillettes et en temps réel, ils doivent obéir à des ordres.
Donc, ils sont des anonymes.
Oui, oui, moi je ne connais personne. On les a rencontrés il y a un jour avant de la répétition de la première, donc on a briefé, comme on dit, on a travaillé pour connaître tous les repères sur le sol, comment ça marche, pour connaître la fonction des devices acoustiques. On a expliqué des choses, on a répété aussi de certains mouvements, mais c'est vraiment, comment dire, ils sont jetés sur le plateau dans l'obscurité, donc ils doivent obéir aux ordres. Et ça, c'est aussi une ça fait partie aussi du langage du théâtre, non? Donc obéir à un copione, non? Un texte, à une structure, non? Il faut se consigner dans la structure. Dans ce cas-là, ce sont des policiers, donc on peut aussi imaginer la loi.
Ils deviennent des policiers alors que ce sont des anonymes et
c'est ça.
Ils n'ont pas appris de texte.
C'est ça.
Mais ils se soumettent quand même à ce que vous leur dites dans les oreillettes.
Oui, oui. Mais il y a toujours la possibilité, oui. C'est comme ça. Ils doivent accepter d'abord. Donc, ils doivent connaître qu'il y a des moments, ça peut être des moments un peu compliqués. Ça. Ils doivent accepter ça et après. Ils reçoivent un uniforme et c'est parti, c'est fait. Donc il y a à côté du plateau une matrice qui donne à eux, en temps réel, les ordres. Et donc il y a des ordres individuels, il y a des ordres collectifs, il y a des synchronismes, il y a les chaos. Et on fait et on défait des choses, des formes et tout ça. Mais il y a aussi évidemment les rapports avec les désordres. Il y a aussi la possibilité chaque soirée d'un malentendu.
Et tout ça peut arriver sur le plateau.
Ça arrive. Des gens qui ne comprennent pas un ordre, ils font une autre chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant de garder une porte ouverte à l'hasard.
Ce qu'on observe aussi beaucoup dans cette nouvelle pièce de théâtre qui s'intitule Bros, Romeo Castellucci, c'est qu'ils sont tous semblables parce qu'ils sont tous habillés pareil, ils sont tous semblables parce qu'ils vont exécuter les mêmes mouvements au même moment. Oui. Et ce côté semblable à l'autre décuple finalement ce corps collectif que vous créez sur le plateau du théâtre, décuple formidablement l'idée que tous ensemble, on est plus soumis que quand on est seul.
Oui, ça c'est évidemment, on parle de la police, mais la police c'est une métonymie de la communauté humaine, c'est un portrait de nous. Alors par accident, ils ont un uniforme de police, mais c'est en réalité un portrait de nous. Donc où il y a le même mécanisme d'obéissance. Donc voilà, l'uniforme, c'est pas un vêtement, mais c'est une façon d'entendre les choses.
Et ce qu'on peut quand même noter dans ce Bros, Romeo Castellucci, c'est que il n'y a pas de parole.
Une,
et pas n'importe laquelle.
Oui, à vrai dire, deux. La première, c'est le langage machine.
Donc, ça, c'est aussi, peut-être vous pourriez expliquer que c'est aussi une thématique très importante à l'intérieur de votre travail théâtral et philosophique depuis longtemps.
Oui.
Parce que vous aviez fait, en tout cas en France, à la Villette, il y a quelques années, un spectacle sans aucun acteur.
Le sacre du printemps,
justement. Uniquement avec des machines.
Oui, c'est vrai. Les machines, ce n'est pas un gadget, mais c'est là où il y a une machine, il y a un fantôme. Donc c'est une opération fantasmique. Donc il y a des morts. Là où il y a des machines, il y a un pouvoir, il y a un appel à l'autre monde. Et la machine, c'est un appel de l'autre monde. Donc il y a toujours une personnalité, comme on dit. C'est comme on échappe de l'humain, mais c'est un appel ou une menace aussi à l'humain. Dans ce cas-là, dans ce spectacle, c'est plutôt une menace. Donc on dirait qu'ils sont des outils militaires, des sonars, des radars ou des canons. mais ils ont à voir avec la télécommunication. Il y a comme un code, non, un langage machine qui cherche. Ce sont des machines qui tournent pour chercher quelqu'un. Donc il y a ce son, un bruit, mais qui est un code qui est codé, qui est une sorte de langage. Et après, on voit, au contraire, on tombe dans le passé, dans un temps archaïque, où il y a un prophète, un homme, un vieillard.
Qui ressemble un peu à un druide.
Oui, peut-être, oui. À cause de la barbe, oui. Mais donc on ne comprend rien. Donc il est effectivement Jérémie, mais on ne comprend rien. C'est interprété par Valer de la Chiesa, qui est un grand acteur roumanien, mais il n'y a pas de sous-titrage. Et ça, c'est un choix. Parce que justement, on ne comprend jamais la voix d'un prophète. La voix d'un prophète, c'est par définition une voix qui crie dans le désert. Parce que les prophètes, ils arrivent trop tôt ou trop tard. Donc on n'arrive jamais à les comprendre, parce que ça, c'est la voix qu'on devrait comprendre pour être sauvé. Jérémie, c'est le prophète qui parle de l'esclavage. De l'esclavage en Babylonie. Donc c'est un alarme. Faites attention. Mais on n'arrive jamais à les comprendre. Et après, on voit ce qui se passe. Donc il y a une confrontation entre deux paroles, les deux incompréhensibles. Et après, évidemment, les policiers, ils n'ont pas une parole. Évidemment, ce sont des gestes. Ce sont les agenti, les agentes. Ils sont là pour agir, pas pour parler. Et ça, c'est aussi l'aspect troublant. Quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas un accès. Donc ça devient... il y a un mystère, il y a une ombre. On ne connaît pas les intentions de l'autre sans la parole. Ça, c'est, au théâtre, c'est très efficace. Dans la réalité, c'est inquiétant.
Mais justement, est-ce que votre travail en ce moment s'alimente à une perception ou à un décryptage d'une certaine actualité ? On voit bien que dans certains pays, y compris en Europe, heureusement en Italie, vous avez l'air quand même d'être plus protégé qu'en France. Mais il y a une montée du populisme dans d'autres pays européens aussi. Et quand on voit cette nouvelle pièce de théâtre, Roméo Castellucci, on ne peut pas ne pas penser justement à ces espèces de discours, de propagande qui s'alimentent à la haine de l'autre et qui fonctionnent en fabriquant un corps collectif de haine.
Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est une lecture possible que vous faites, qui est absolument légitime et aussi plutôt proche à la mienne, mais ce n'est pas le but du spectacle de donner une interprétation à la réalité. Ça c'est pas mon devoir, c'est pas mon boulot. Moi je dois jeter sur plateau des choses. Et après, pour moi, c'est l'inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, à vrai dire. Je ne connais pas mon travail. Je ne le dis pas pour une fausse modestie que je déteste, mais c'est un fait, c'est vrai. Je ne peux pas expliquer ce qui se passe sur le plateau. Il y a un côté qui reste un énigme pour moi. Mais par contre, c'est juste, c'est exact. C'est un énigme exact. On doit travailler sur la forme pour avoir l'exactitude. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Il n'y a aucun spontanéisme. Tout est réglé dans une forme. Donc, c'est ça le vrai travail, de chercher la forme, d'affilare la lama, je dirais en italien, je ne sais pas comment dire en français. Faire le fil à la lame d'un couteau. Non, de faire vraiment une forme lisse, puisqu'ils peuvent pénétrer encore plus profondément dans le corps du spectateur.
Vous dites, il y a des choses, voilà, moi je jette sur le plateau des choses et chacun en sortira comme il le voudra. Il y a cette espèce de liberté essentielle pour nous spectateurs quand on voit votre travail, et ce depuis pas mal de temps, Roméo Castellucci, mais même pour les gens qui viennent pour la première fois, je pense qu'ils sont saisis par cette sensation de liberté que vous nous donnez. Mais cette façon de ne pas clôturer votre travail psychiquement, qui est très rare dans le monde artistique aujourd'hui, Est-ce que c'est pas justement dangereux pour vous? Vous aimez ce danger-là?
Oui.
Qui est de l'insu en vous, quoi.
La fragilité, l'être exposé dans la honte de montrer quelque chose, peut-être totalement trompé, ça c'est la chose excitante de ce travail, je crois. Il ne s'agit pas de savoir-faire, non? Ça c'est le danger ou la professionnalité. Donc on se met à l'abri parce qu'on connaît comment ça marche et tout va bien. C'est pas ça, ça c'est la mort noire. Donc il faut toujours chercher la contradiction en moi, en nous, non? Autant que artiste. Mais déjà, le mot artiste, c'est embarrassant pour moi.
Artisan?
Oui, peut-être.
En tout cas, quand on rentre dans la salle, on nous donne un grand papier noir avec marqué en blanc « devise » au pluriel. J'ai lu en tout début d'émission la première. On ne peut pas dire au passé ce qu'il doit faire. Je vais lire la seconde, qui est omniprésente, même si elle n'est pas prononcée durant le spectacle, mais elle est omniprésente psychiquement en nous. C'est « il faut négocier avec les morts ».
Oui, ça c'est, comme je l'ai dit, la naissance même du théâtre. Donc il n'y a que des fantômes, donc il y a toute l'histoire de l'art, toute l'histoire du théâtre en particulier, le théâtre occidental, mais même pas. Surtout, je dirais aussi, le théâtre oriental, c'est une rencontre avec les morts. Et on reste sur la même, nécessairement sur la même piste, la même lit de ces rivières. Il y a un rapport avec l'au-delà.
Dernière question, Romeo Castellucci, vous avez fondé il y a 35 ans à peu près votre compagnie qui s'appelle Raffaello Sanzio. Aujourd'hui, vous faites cette pièce de théâtre qui s'intitule Brass, qui est une sorte de vigie, quoi, pour le maintien de notre démocratie et pour que la civilisation continue à peu près, vaille que vaille. Et c'est un moment de théâtre très déchirant, très noir. Mais, alors je sais pas là aussi si je me suis pas trompée, mais comme souvent d'ailleurs dans vos spectacles, il y a des enfants. Là, il y a un enfant. Il y a un petit garçon.
Oui.
À la toute fin. Et on se dit, voilà, la vie peut continuer.
Oui, peut-être, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a très souvent des enfants qui sont les acteurs les meilleurs, à mon avis. Parce qu'ils ont peur. Ils ont un rapport avec le plateau qui est originel. Original et originario, les deux. Il y a une autre lumière, comme on dit, quand il y a un enfant. Donc on peut véritablement ouvrir une autre dimension dans les possibles qui échappe à ces cas-là, dans l'obscurité. Peut-être.
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 Ben, merci infiniment.
Merci.
Je rappelle que la pièce s'intitule Brass, qu'elle est donnée à Bobigny en ce moment même. Merci infiniment, Roméo.
Merci à vous.
Sur mon arbre à minuit, à la mort.
Et c'est avec À l'amour de Jean-Louis Murat que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Roméo Castellucci. Je rappelle que votre spectacle intitulé Brosse, c'est jusqu'au 19 février, donc dépêchez-vous. C'est la MC 93 à Bobigny. Merci à Hervé Dubreuil qui a eu la gentillesse de se déplacer un dimanche après-midi pour enregistrer les propos de Roméo Castellucci. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément et à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Assayas pour la suite de son Very Good Trip.